Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses et je me demande pourquoi. Alors on peut être non seulement étonné, mais on est émerveillé aussi de la manière dont Dieu dirige nos vies, la manière dont il conduit finalement nos existences. Et j'aimerais ce matin ouvrir une page de la Bible et qui nous révèle finalement la manière dont Dieu nous dirige et nous inspire. La façon dont il remplit nos cœurs, et cette voie, c'est la foi. Alors vous allez me dire, c'est un lieu commun, la foi. Quand on va dans une église, on parle de la foi. Mais j'aimerais vous en parler d'une manière un petit peu particulière, si vous voulez bien. Pour faire tomber beaucoup de préjugés, parce que il y a toutes sortes de choses qui, parfois, sont au fond de nous-mêmes. Notre éducation, classique ou religieuse ou autre. Alors, je veux dire, dans cette prière, avant de commencer, tu ouvres pour moi, tu ouvres pour nous des voies merveilleuses. Et si je me demande pourquoi, tu vas me répondre maintenant, Seigneur. Tu vas me donner, les réponses qui me sont nécessaires. Alors, ce que je souhaite et ce que je demande, c'est que vous ouvriez grand votre cœur, non seulement vos oreilles, mais votre cœur. J'ai eu ce message, alors que nous étions absents pendant quelques jours, de Saint-Nazaire. Et puis, à un moment donné, je ne suis pas un visionnaire, je le dis tout de suite, mais j'ai eu cette pensée forte dans mon cœur sur le sujet sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Alors, on aurait pu parler de ce message que nous avions laissé la dernière fois sur l'honneur, mais là, on va ouvrir notre Bible dans Romains chapitre 10 et verset 6, et nous allons lire quelques paroles, seulement quelques paroles, mais elles suffisent. Pour nous ouvrir des voies merveilleuses. Alors, Romains, chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc la parole ? Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Que Dieu nous bénisse à travers cette lecture. Je reprends deux éléments de ce que nous avons sous les yeux. Si tu crois dans ton cœur que, et un peu plus loin, car c'est en croyant du cœur que. Il y a une association entre le verbe croire, la foi, et le cœur. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental, pour nous approcher de Dieu. Un jour, une question pathétique a été posé aux apôtres par un homme qui était geôlier de la prison de Philippe, posé à deux apôtres, Paul et Silas. Et cette question en substance, la voici. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? La plus grande détresse que cet homme n'a jamais connue, dans les circonstances rapportées dans le livre des Actes, l'a amené par bonheur, et je souligne, par bonheur, à s'interroger sur le plus vital des problèmes où il se disait lui-même dans ces instants de ténèbres et d'obscurité, « Je vais mourir, mais suis-je prêt ?» Avait-il attendu ce moment pour se poser cette question? Mais il se l'est posé, puisque la Bible nous le dit. « Suis-je prêt? Suis-je sauvé ?» La réponse à en juger par la suite est inattendue et quelque peu différente de la question. Il ne s'agit pas de faire, mais il s'agit de croire. Et nous allons voir qu'il y a quand même des choses parfois à déblayer dans notre cœur en matière de foi ou d'approche de Dieu. Et je le répète, il ne s'agit pas de faire, mais de croire. Et ce à quoi Paul répondra, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Vous connaissez, hein, c'est très classique. En répondant de cette manière, me semble-t-il, nous touchons au cœur de toutes les solutions, de tous les problèmes et de toutes les questions que les hommes peuvent se poser. La seule vraie réponse à tous les maux, la réponse que Dieu offre aux hommes, c'est la foi. Alors qu'est-ce que la foi? Eh bien, nous allons en parler ce matin. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qui me permet, moi, homme, enveloppé dans un monde physique, de toucher l'invisible? Moi qui suis retenu dans des prisons et dans les liens du visible, de la matière, comment puis-je rentrer dans la dimension immatérielle, dans la dimension de l'invisible? C'est la foi. Faire quelque chose. Nous faisons des milliers de choses. Mais permettez-moi d'ajouter, et je l'ai souvent dit en évangélisation, c'est que quand nous faisons nous-mêmes, nous rendons Dieu impuissant. Parce que finalement, nous le faisons à sa place. Et lui, peut-être, pourrait nous dire, mais si je l'avais fait à ta place, j'aurais fait certainement autrement que toi. Parce que tout ce que nous pouvons faire reste très, très partiel. Et quand nous croyons du cœur, alors Dieu fait à notre place. C'est peut-être très simpliste ce que je suis en train de dire, mais on va aller voir plus loin. Ouais. Quand nous croyons, alors Dieu fait à notre place. Et c'est toute une école pour chacun d'entre nous. Il est dans la possibilité de tous les hommes de croire. Sinon, Jésus ne nous aurait pas dit « croyez ». Si ça avait été possible à certains et à d'autres. Là, c'est une injonction. C'est une injonction universelle. Croyez. Donc, on peut dire que qui veut croire, peut croire. Il y a des gens qui disent, eh bien, moi j'admire votre foi, mais je ne peux pas. Ben non, c'est faux. Ce n'est pas une réponse. Mais le pouvoir de faire humain étant très limité, et on le sait, ce qui met en évidence la foi comme étant supérieure en capacité, car elle rend l'impossible possible. Il y a des choses qui sont possibles pour nous en tant qu'hommes, mais il y a des choses qui sont impossibles. Et c'est là où Dieu nous dit maintenant, eh bien fais-moi confiance. Des attentes, des espérances, des choses qui sont nourries dans nos fonds de notre cœur, hein, peut-être depuis très 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 longtemps. Des souffrances que nous souhaitons voir disparaître, des libérations, le poids du péché, toutes sortes de choses. Pour vous dire que l'impossible appartient à Dieu. Ouais. Et l'option de croire dans la possibilité infinie de Dieu nous ouvre les portes de l'impossible. Tu ouvres pour nous des portes merveilleuses. Et on va pousser ces portes. On va en refermer d'autres aussi, si vous voulez bien. Parce qu'il y a des voies sans issue. Parce qu'il y a des portes qui ne mènent nulle part, sinon qu'à la confusion. Et cela s'appelle... Je le rappelle, cela s'appelle la foi. Je vais essayer d'être simple. J'espère que je le suis, d'habitude. Tout d'abord, il est nécessaire de lever un fâcheux malentendu. La foi, ce qu'elle est, et la foi, ce qu'elle n'est pas. Alors nous sommes dans un monde de confusion et de mélange. La foi, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. La Bible affirme que la foi est une faculté majeure inhérente de la nature humaine créée par Dieu. Cependant, il y a un distinguo à faire. Il y a la foi naturelle et il y a la foi surnaturelle, ou appelons-la, si vous voulez, spirituelle. Foi naturelle, foi surnaturelle, foi spirituelle. La première est innée, intuitive, inconsciente, continuelle, psychique. La seconde est une grâce, un don. Et cette seconde vision de la foi est étrangère aux réalités tangibles et visibles de notre monde physique. La foi spirituelle a sa source dans la connaissance, mais aussi dans l'acceptation de la volonté de Dieu révélée par sa parole. Alors on va dégager tout ça, parce que ça semble peut-être pas toujours évident. On va aller avec des exemples tout à l'heure. Et je répète bien que la première, finalement, eh bien, nous la pratiquons tous les jours. Vous allez me dire, vous avez tous la foi. Et je vous montrerai pourquoi vous avez la foi. Jour et nuit, vous avez la foi. Mais ce n'est pas de cette foi-là dont nous parle la Bible. Il nous parle d'une autre foi qui est celle qui nous fait rentrer dans le monde invisible, derrière le voile de l'invisible, et qui nous fait toucher Dieu, qui nous fait toucher les possibilités infinies de Dieu, le surnaturel de Dieu, là où c'est inaccessible pour l'homme. Donc, la première est action, on va le voir. La deuxième est en quelque sorte un acte d'abandon. Ça va ? Un acte d'abandon. Selon un principe d'appropriation de choses qui existent dans le ciel, des choses qui sont des réalités devant Dieu, qui sont invisibles pour nous, mais qui existent. Elles sont pour moi, elles sont pour vous, elles ont été conçues spécialement pour chacun d'entre nous. Elles sont en quelque sorte taillées sur mesure. Et il y a ce principe d'appropriation établi par Dieu qui permet de prendre, qui permet également de recevoir, qui permet d'employer, qui permet d'appliquer ce qui, humainement parlant, est impossible. C'est toute l'histoire de la Bible et de l'Évangile, en quelque sorte. Ça va ? Oui ? En parlant de la foi surnaturelle, Paul s'exprime ainsi, vous le savez, tout est possible à celui qui croit. Vous le savez, on le dit, on le répète, on le cite à d'autres, on le dit, mais tout est possible à celui qui croit. On vous regarde, ben oui, mais je voudrais bien, mais comment faire, hein ? Ce même Paul a encore raison quand il affirme que trois choses demeurent dans le monde et trois choses demeureront dans l'éternité. L'amour, la foi et l'espérance. J'ai pas le temps ce matin, mais j'ai été interpellé pour un message entre la notion d'amour et de foi. Je lève simplement une pensée. Ceci pour dire que tout acte de foi est un acte d'amour. On y reviendra, il faut que je travaille un peu la chose, mais ça viendra. Tout acte de foi est un acte d'amour. Parce que la raison en est bien simple, seul l'amour donne confiance. Vous le comprenez ça ? Seul l'amour donne confiance. Si j'aime, je vais avoir confiance. Alors, on en reparlera une autre fois. Ce que j'ai découvert ça au dernier moment. Alors, quand on ouvre la Bible, on n'en finit pas. C'est incroyable. On a souvent présenté la foi comme un don accordé par Dieu à certains favoris et privilégiés. Vous vous rendez compte, vous êtes des chouchous de Dieu. C'est extraordinaire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Certes, la foi est un don d'origine. Je remonte à la création en Éden, par exemple. Mais la chute, dont vous savez le fait et les conséquences, a tout saccagé de cette relation créature-créateur. Tout a été perverti, vicié, dénaturé, défiguré. L'homme n'a rien perdu de cette faculté de croire, à la seule exception près qu'il ne sait plus faire la différence entre la foi naturelle et la foi spirituelle. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, la foi spirituelle, la plus importante, la plus utile, celle qui met l'homme en rapport avec le monde invisible et tout-puissant de Dieu. L'Évangile est un livre extraordinaire. Parce qu'on touche des choses, on voit, on entend des choses merveilleuses. Et on les expérimente, c'est ça ce qui est extraordinaire, parce que ce n'est pas un livre mort. Hein. C'est un livre, c'est une parole vivante, et on le vit, parce que nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors l'homme s'est pris à douter, et il a transféré les sources de sa foi de son cœur à sa tête. Ou à son âme, ce qu'on appelle le psychisme. Et alors à ce moment-là, c'est pourquoi Paul dit « Si tu crois de tout ton cœur ». Et le cœur a besoin d'être nettoyé, il a besoin d'être visité, il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, il a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et l'homme est tombé naturellement dans une condition inférieure. Et il ne sait plus voir, il ne sait que voir, il ne sait que toucher et sentir, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec ses sens, avec sa sensualité. Thomas en est le type même. Vous savez ce qu'il a dit ? Si je ne vois et si je ne touche, je ne croirai pas. Et il refuse de croire parce que lui, eh bien, il veut avoir ses preuves par le toucher, par la vue, par entendre. Et il ne peut pas sortir de cela. Et on s'aperçoit que Thomas est aveugle, il nous donne une leçon sur nous-mêmes, parce qu'il est aveugle aux réalités surnaturelles. Et à un moment donné, il va se ressaisir. Alors qu'il est tombé bien bas dans le doute et dans le désespoir, il va se ressaisir et il va crier plus fort que tous les autres, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et l'homme est semblable, il va jusqu'à nier l'évidence d'un Dieu créateur. Moi j'aime bien ce texte. Dans Romains, Paul était un homme inspiré. Et écoutez, pourtant la parole nous dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et Dieu donnera cette conclusion, mais ils sont donc inexcusables. Comment se fait-il que le monde entier ne croit pas ? Il est dans un monde qui l'environne, l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui est la signature partout de Dieu. Moi-même, mon souffle, ce que je suis, la signature de Dieu, partout en tout. Mais il faut ajouter que l'humanité, à cause du péché, a perdu la notion de la foi qui la met en contact avec Dieu. Elle est retombée au niveau d'une foi finalement inférieure, nous le disons, mais une foi naturelle, foi spirituelle. Alors, ça va vous aider. Foi, c'est faire foi quand je mange, parce que je crois la valeur de la nourriture. Si on me dit ce sont des champignons, mais ils sont vénéneux, alors là, je n'aurai un doute. Parce que je fais confiance. Je ne me pose pas de questions. Si on me dit que cette nourriture est bonne, je vais la manger. Si on me dit, attention, tu la manges si tu veux, avec les risques que ça, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas bonne. Alors à ce moment-là, je fais un acte de foi. Mais bon, ça, ce sont des choses. C'est faire également acte de foi quand j'achète dans une boutique ce que je crois être la qualité du produit et puis finalement l'honnêteté du vendeur. C'est un acte de foi. Je lui fais conscience. C'est mettre en action ma foi quand je m'assieds sur une chaise. Avez-vous remarqué qu'il y a quand même 4 pieds à votre chaise ? Il y en aurait eu 2, il y en aurait eu 3. Je ne suis pas sûr du résultat. Hein. Vous n'avez pas vérifié avant ? Non, vous n'avez pas réfléchi avant. Vous vous êtes assis. Les plus svelte et les plus... Voilà, et ça a tenu, hein. Parce que normalement, il y a 4 pieds. Voilà. Et vous ne posez pas des questions comme ça, continuez, autrement la vie serait un enfer. Hein. si vous deviez vérifier tout. C'est un exemple. Je crois simplement à la solidité du mobilier. Bon. Chaque jour, mes frères et sœurs, nous faisons des milliers et des milliers de fois confiance en voiture, en avion. Ah, l'avion, c'est encore autre chose. Imaginez-vous, avant de monter, moi je suis un simple passager. Je dois aller dans un autre pays et je vais aller voir les responsables du vol en disant « Moi, je voudrais bien voir le listing pour voir si tout a été contrôlé, tout a été, si vous fermez bien les portes avant de partir, etc., etc. » Il y aurait du retard, hein. Ben oui, je fais confiance, parce que quand on est là-haut, on descend plus, hein. Soit on monte encore plus haut, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, on a déjà pris un petit peu d'avance, on a déjà décollé, si vous voulez. Ou alors, ben dans ce cas-là, on se laisse et on va arriver à destination. Ce sont des actes de foi dans d'autres choses. De la naissance jusqu'à la mort, la foi préside à tout, mais c'est la foi naturelle. Et c'est tellement inné, c'est tellement instinctif, c'est tellement irréfléchi, nous faisons les choses comme cela. Dans tous les actes courants, nous faisons naturellement, inconsciemment, continuellement des démarches de foi et personne, pourtant, n'a l'idée de l'appeler la foi. Et c'est pourtant la foi, quand même, mais au sens où on l'a dit. Je passe à un autre aspect de la foi naturelle, c'est ce que j'appellerais la foi historique, qui consiste à croire dans des faits que nous n'avons jamais connus ou vus et qui pourtant ont existé. Personne n'aurait la pensée de nier l'existence d'un Jules César ou de Napoléon ou même de Gaulle pour certains qui l'ont connu. Peut-être pas personnellement, mais enfin quand même. Parce que finalement, eh bien, ça fait partie de l'histoire. C'est la foi historique. Cette foi repose sur des témoignages, des rapports et des dires. Mais dites-moi, la Bible, c'est un livre d'histoire? On devrait peut-être pouvoir y croire quand même. Eh oui, ça repose tout simplement sur cela. C'est croire finalement à la parole, aux écrits de d'autres. Et quand on va à l'école et en cours d'histoire, eh bien, on nous raconte finalement tout ce qui était avant nous. Et on fait confiance. Une autre forme de foi naturelle, c'est la foi sanctifique. Elle est très intéressante, celle-là. Elle tient à l'intuition et à la perspicacité de certains. Ils sont rares. En matière de découverte. Oui, je dis bien à l'intuition, à la perspicacité. En exemple, certains savants ont découvert des secrets alors que personne n'y croyait. Alors on se moquait d'eux, ils passaient pour fous, mais au prix d'efforts, de mois, d'années, de courage, de persévérance, ils ont atteint le but, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où nous avons et nous bénéficions de choses tant sur le plan médical, tant sur le plan du développement industriel ou autre chose, hein, c'est multiple, eh bien parce que des gens ont été, ah oui, cette perspicacité, ils avaient la foi. Une foi scientifique, Christophe Colomb, qui pensait aller ici et qui était là, il ne savait pas tellement où il en était rendu. Je pense à Bernard Palissy, qui était protestant, vous connaissez l'histoire des émaux, hein. Eh bien, il a passé sa vie entière, il a brûlé ses biens, il a fait des choses. Il a rendu sa famille profondément malheureuse, mais un jour, il a découvert le secret des émaux. Pasteur, notre grand pasteur, enfin je parle pas de moi, hein. C'est venu comme ça, excusez-moi. Non, je ne vaccine pas contre la rage. Hein. Rage dedans peut-être, je peux prier pour vous en tous les cas. Mais un cas qui est assez particulier, c'est Marie Curie. Et j'étais toujours interpellé par cette femme, parce qu'elle montre vraiment l'exemple de la foi scientifique. Et Marie Curie a passé des années et des années à la recherche pour trouver les principes du radium. Et avec son mari, dans un laboratoire de fortune, elle faisait venir du Pechblende, c'est un mot allemand, c'est le minerai dont tire l'uranium. Et elle a fait venir, elle a dépensé un argent fou, elle a travaillé des années, elle a travaillé des mois, etc., jusqu'à un beau jour, Elle croyait qu'il y avait quelque chose dans ce poussier, parce que finalement, c'est des résidus de poussière, hein, des mines qui se trouvent en Autriche. Et elle a fait venir des wagons entiers, et avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'observations, et elle avait la foi. Elle se disait, il y a un principe dans ce minerai. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, elle a vu un beau soir, elle a appelé son mari, Pierre Curie, et elle a vu dans un tube le premier rayonnement du radium. Et aujourd'hui, ça nous sert, hein. C'est quelque chose qui est... Parce qu'elle avait la foi. Tout le monde se moquait d'Alizée, mais ils sont fous. Eh bien, elle a découvert le principe. Elle avait la foi scientifique. Ils avaient foi dans ce que les autres ne voyaient pas ou ne croyaient pas. C'est ça la foi, naturelle. Autre genre de foi. La confiance dans la vie et dans l'homme. Alors, il y a un texte qui nous en parle. C'est dans Jérémie, je vous le cite tout simplement, parce qu'il est assez évident. Écoutez, Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Ouais, la confiance dans la vie et dans l'homme, il faut en avoir une proportion, parce qu'autrement, on meurt, hein, c'est vrai. Mais attention, c'est une autre forme de foi. Mais je dirais que c'est une foi fragile. C'est une foi éphémère par le fait que la vie sur la terre, elle vient et elle part, elle repart. C'est une foi même quand elle est poussée, comme nous le voyons dans notre société, comme dans toutes les sociétés naturellement, une foi qui peut devenir une foi insensée. Car la logique nous apprend que la vie est temporelle. La Bible le martèle, c'est un souffle, c'est tout simplement... une fleur qui fane, et que l'homme est mortel, ça devrait nous le rappeler. Et c'est ça justement, ce dépassement. La foi à court terme est vouée à périr, et pourtant le monde en fait toute une gloire de cette fausse confiance, de sa science, de ses mérites, de sa force, de sa sagesse. Et on bâtit un monde, notre monde est bâti là-dessus. C'est la foi. Dans la vie, dans l'existence, dans l'homme, ce qui a donné des philosophies politiques dont aujourd'hui on s'interroge de ce qu'elles ont pu apporter de bien à l'humanité. Tous les extrêmes, de droite ou de gauche, c'est une philosophie. On croit dans l'homme. Alors, l'homme a bâti autour de cela une philosophie, je le disais, dans laquelle il croit fermement. C'est pour ça qu'il y a des engagements politiques, des engagements de ceci. Ben, c'est pas mal en soi, si vous voulez. Mais faut-il qu'il soit saint, qu'il soit juste, qu'il soit pour le bien de l'humanité et qu'il puisse contribuer aussi à la gloire de Dieu. Et ça, c'est souvent le grand oublié. Finalement, du programme. C'est peut-être un point de vue matérialiste, humaniste, je pense à la philanthropie, l'altruisme, hédonisme, vous savez ce que ça veut dire, plaisir de la vie, ou athée. Et l'homme s'est fait une base qu'il croit solide, indestructible, inattaquable, à laquelle il justifie sa raison de vivre et rattache ses satisfactions. Et ça le motive. On dirait que cet homme-là, c'est un croyant en son genre, il croit. Et vous allez voir que la foi, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'on ne pense. C'est un croyant en son genre. Sa religion, c'est ceci et cela. On a souvent parlé de certaines doctrines politiques comme des religions. Sa foi peut être superficielle, elle peut être fausse, elle peut être pervertie, mais il y croit quand même. Il y croit jusqu'au bout. Nous, ce sont des grandes leçons pour nous, hein. De voir des gens qui, quelque part, pour des choses qui sont pas toujours très bonnes et très saines, eh bien, aller jusqu'au bout et donner leur vie. Et nous, où nous en sommes dans notre foi en Jésus-Christ. On comprend toute l'importance de la foi, car l'homme ne peut pas vivre sans croire, il a été conçu pour ça, parce qu'autrement on cesserait d'exister. On a besoin de la foi pour vivre. Mais on a besoin de l'autre foi dont nous allons parler maintenant. Parce que elle ne nous rapproche pas, elle ne nous donne pas le sens de notre existence pour ce temps, mais pour l'éternité. C'est autre chose, elle a une autre dimension, une autre valeur. Autrement, l'homme meurt. Si nous ne sommes pas, si nous cessons de croire quelque part, eh bien nous mourons. Autre type de foi humaine, c'est la foi émotionnelle. La foi émotionnelle, c'est une foi subjective. C'est-à-dire qu'elle ne se fonde pas sur des faits, mais elle se fonde sur ce que je ressens. Alors là, je peux vous dire qu'on peut être emporté très loin. Parce que si je ne vis qu'avec ce que je ressens beaucoup de choses. Hein. Il y a des bonnes et des mauvaises. Hein. Alors, c'est la foi émotionnelle, c'est-à-dire elle est toute empreinte, quelquefois, de crainte, de peur. Regardez ce que dit Job. Lui, il avait, à un moment donné, il était pris dans les pièges, dans les filets de la foi émotionnelle. Écoutez bien ce qu'il dit. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ça s'appelle quoi, ça? On en parlera tout à l'heure, de la superstition. Parce que c'est vrai, à force de croire très fort qu'il va m'arriver une pierre sur la tête, je vais bien en recevoir un jour ou l'autre. Hein. Non, mais c'est vrai. Si je dis que, oh là là, j'ai peur qu'il m'arrive un accident, mais peut-être que moi-même je vais provoquer l'accident, à cause de ma peur et de ma crainte qui va m'omnubiler. Ça, c'était Job. Hein. C'est la foi à l'envers, mes frères et sœurs. C'est l'univers par excellence de la superstition. Combien de gens fonctionnent de cette manière ? Je n'espère pas les enfants de Dieu. Mais combien d'hommes, de femmes fonctionnent avec ce mécanisme de ceci, de cela, de déduction, de raisonnement qui ne sont pas bons ? Alors, il est bien vrai que cette foi n'est pas spirituelle. Elle ne vient pas de l'esprit en conséquence, mais elle vient de nos âmes. Et parfois, nos âmes sont en mauvais état. Et donne libre cours à tous les maux liés à l'âme, l'anxiété, la dépression, où parfois, souvent, nous dénaturons la réalité des choses. Vous savez, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes dans la peur, notre tête, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas bien. Nous voyons les choses pires qu'elles ne sont, à moins que nous soyons des inconscients et que finalement elles sont graves et que nous les voyons comme étant anodines. Mais ça modifie finalement notre raisonnement. Donc notre raisonnement, mais aussi nos actes, nos réactions. Et ça, c'est terrible. Hein. La dépression. Mes frères et sœurs, le Seigneur, je voudrais le dire en passage comme ça, le Seigneur est capable de nous donner une raison saine, une conscience pure, de nous donner un cœur pur, de renouveler notre esprit, mais vraiment comme lui le veut. On a besoin tous d'être guéris quelque part. Vous ne trouvez pas? On est tous malades de quelque chose. Alors, la foi émotionnelle est là. Qu'est-ce qui peut faire peur aux gens? Alors ils vont réagir en fonction de cette foi émotionnelle, pour se défendre, pour se protéger, pour se soulager. Parce qu'ils croient davantage au mal qu'au bien. C'est ça la foi à l'envers. On craint plus ce qui nous donne arriver de mal que le reste. Et parfois cette foi émotionnelle n'a aucune morale, elle est amorale. Elle n'est prête à nous induire, de nous induire, dans le mensonge, dans la lâcheté. Parce que nous ne fonctionnons pas avec des faits, mais nous fonctionnons avec, finalement, de la subjectivité à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, nous sommes prêts à sortir quelquefois eh bien, des armes qu'il ne faudrait pas sortir, même pour un enfant de Dieu. Le mensonge, des réactions violentes, des paroles méchantes, enfin toutes sortes de choses, la lâcheté. Vous savez, la peur, elle nous inspire toutes sortes de déformations, hein. Toutes sortes de choses dans nos comportements et nos actions. J'en arrive maintenant à la foi sentimentale. La foi sentimentale, c'est un petit peu la même chose que précédemment, mais elle ressemble à la précédente par son côté superstitieux. C'est la crédulité. Et la crédulité, je la placerai dans un contexte religieux. On peut être certes très sincère, mais pas toujours dans la vérité révélée. Et il y a des millions de gens autour de nous qui appartiennent à des familles religieuses, qui appartiennent à des dénominations religieuses, où la vérité est absente. C'est-à-dire que ce n'est pas la vérité de l'Église, hein, ce n'est pas la vérité du pasteur, hein, c'est la vérité de Jésus-Christ, hein, qui est consignée dans sa parole, où la parole a disparu et Jésus-Christ a disparu aussi. Et on a fait place à toutes sortes de toutes sortes d'autres choses. Des traditions, des rites, toutes sortes d'autres choses que vous savez aussi bien que moi. Cette crédulité religieuse ne se réclame jamais de réflexion, dans ce sens que finalement on leur dit quelque chose et puis on le croit, on ne nous demande pas, c'est le dogme en quelque sorte. Mais simplement une adhésion à des dogmes ou à des traditions. On dit c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça et il ne faut pas faire autrement parce que si tu sors de ce contexte, eh bien malheur à toi, parce que ça a toujours été comme ça. C'est un enfermement, c'est une prison. L'homme devient captif. Et la conscience est malheureuse. On y est passé, on sait ce qu'il en est. Cette forme de croyance est souvent inculquée dès l'enfance par le milieu d'origine. Avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, nous étions passés par une autre éducation, naturellement. Elle ne dérange pas la conscience, cette, finalement, foi religieuse. Ou alors, soit elle la dérange, ou alors elle la tyrannise. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, parce qu'ils ne savent pas. Elle s'appuie parfois sur des mièvries, des légendes, un miraculeux béat. Cette foi s'extasie devant le beau, mais ne se préoccupe pas de rechercher la vérité de ce qu'elle prétend croire. Voilà le problème. Et on nous a toujours indiqué, sans choquer la conscience de personne, mais on nous a toujours indiqué qu'il ne fallait pas penser notre foi. Eh bien, à partir du moment où nous avons lu la Bible, nous avons pensé notre foi. Et nous nous sommes affirmés. C'est une foi passive. Tu crois comme ça et tu seras sauvé. Il y aura bien une place au ciel. Et puis, il existe encore une autre forme de foi, celle-ci pervertie et dévoyée quant à son objet. Parce que je voudrais dire que la vraie foi repose toujours sur Dieu et sur Jésus-Christ. Je dis bien sur Dieu et sur Jésus-Christ, pas sur autre chose. Ceux qui étaient là vendredi soir, nous avons fait une étude biblique sur le monde étrange. Nous avons été revisiter Deutéronome chapitre 10, chapitre 18 plutôt. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Et la foi dont je parle, cette foi-là repose sur une base malsaine et dangereuse, c'est l'occultisme et la magie. Ça fait appel au monde spirituel, c'est vrai, mais c'est extrêmement dangereux. Puissance ténébreuse de l'au-delà. Pour ne citer que les voyants, les astrologues, l'astrologie, l'horoscope et toutes sortes de choses qui mettent les hommes en contact avec le diable, avec des démons. C'est du surnaturel, c'est du spirituel, mais c'est du malsain et du dangereux. À la faveur d'une prétendue puissance de mauvais aloi, les hommes se laissent séduire, ils se laissent tromper, ils se laissent lier dans leur âme et dans leur esprit. Et ils deviennent captifs s'ils ne sont pas liés quelquefois dans leur corps. Le gadarénien en est la preuve. Lui, il était les trois dimensions, corps, âme et esprit. Les gens sont captifs. Alors, pour terminer, où est la vérité? Où est la vérité et en qui pouvons-nous avoir vraiment confiance? Où se trouve la vraie foi? La foi qui sauve, alors là vous allez reconnaître la phraseologie, la foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui libère, la foi en Jésus-Christ, la foi dans l'Évangile, la foi en Dieu. Eh bien écoutez la réponse. La parole est près de toi, vous vous rendez compte? Dieu nous fait l'insigne, nous donne l'insigne privilège. Ce matin, il est au milieu de nous et il nous donne sa parole. La parole est près de toi, dans ta bouche. En l'occurrence dans la mienne, en cet instant et dans vos oreilles, si vous ne dormez pas. Mais je sais que vous ne dormez pas, ça je le sais. Alors, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Elle est dite, cette parole. Vous rendez compte le lien, l'association qu'il y a entre la parole de Dieu que lui-même a donné, qu'il met dans la bouche des hommes pour qu'elle soit dite et redite et crue. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Avec mon épouse, on demande très souvent le matin quand on prie, « Seigneur, donne-nous d'être des communicateurs de foi. » Vous en avez besoin, le monde en a besoin. Si je n'ai rempli que cette mission, ce sera formidable. Merci Seigneur, parce que vraiment nous avons à cœur. Communiquer la foi. Non pas d'être des chrétiens qui rebutent, rébarbatifs, qui font peur aux autres, mais de pouvoir dire, eh bien voilà, nous avons la foi par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et j'aimerais que vous la partagiez et de leur donner des preuves. Et ça, la foi, ça ne marque avec l'amour. Hein. Si vous dites, eh bien j'ai la foi et que finalement vous avez un regard ou des attitudes qui sont des attitudes d'indifférence, de mépris vis-à-vis des autres, ou de jugement parce qu'ils ne pensent pas comme vous, alors à ce moment-là, vous ne serez jamais un communicateur de foi. Il faut que les gens sentent que vous les aimez. Et ça, c'est formidable. Parce que ce que le monde a besoin, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est de la confiance. Et s'ils vous font confiance déjà un petit peu, bien après, ils découvriront qu'ils peuvent faire confiance à Dieu. Et après, eh bien, leur confiance sera toute en Dieu. Pas en nous, mais en Dieu seul. Voyez? Je dis, c'est formidable, c'est merveilleux. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Mais je le dis quand même. C'est formidable. Bon, j'arrête. Jésus dira dans l'Écriture sainte, ta parole est la vérité. Et qu'est-ce qui nous amène à la foi? C'est la vérité de la parole. Oui. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Christ. Il faut prêcher le Nouveau Testament, il faut prêcher l'Évangile, il faut prêcher le nom de Jésus, il faut prêcher la croix de Jésus, il faut prêcher sa mort, il faut prêcher sa résurrection, et il faut prêcher son retour, parce qu'il est pas loin à la porte. Hein. Dans le psaume 119, on va faire une petite étude. Vous allez me répondre. N'hésitez pas. Hein. Ah non, n'ouvrez pas le psaume 119. Et vous savez pourquoi? Combien il y a de versets? Pardon? Deux ou trois versets. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Vous serez punis ce midi, viendrez me les réciter 10 fois, vous allez voir. Non, non, bon. Alors, le psaume 119, il est dit, comment? Combien? 177, alors. Alors, en tous les cas, je vous cite simplement ce verset. Ta parole est une lampe à nos pieds et une sur sentier. Voilà. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On ne vit que par la parole et c'est la parole qui nous donne la foi. La parole, une base unique qui fait autorité dans notre vie, c'est la Bible. Tous les hommes, consciemment ou non, ont eu la pensée dans leur cœur de l'éternité, de l'existence de Dieu. Ça, c'est le livre de l'Ecclésiaste qui le dit. De la réalité du bien et du mal. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de savoir qui est ce Dieu créateur, ce qu'il fait et où il se trouve. Ouais. Le troisième pas, c'est de vouloir connaître ce qu'il a dit et ce qu'il dit encore aux hommes de notre temps, qui nous amène à sa parole, qui est, je le dis, je le répète, qui est la Bible, et c'est en lisant ou en écoutant son message que la foi apparaît. Un des plaisirs ou des bonheurs que je trouve lorsque je prêche l'Évangile, c'est de voir le visage de certains interlocuteurs, alors maintenant faites des sourires, hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Des gens qui viennent pour les premières fois, et qui viennent souvent accablés, malheureux, tristes, ternes. Et quand ils repartent ou quand ils écoutent la parole, il y a comme une illumination sur leur visage. Vous connaissez ce texte, hein? C'est dans les psaumes. Il est dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Mes frères et sœurs, quand vous priez, ça se voit moins, et quand vous chantez des cantiques, souriez. Tout ça pour vous dire, souriez! Mais oui, parce que notre bonheur, il est là. Et notre bonheur, c'est d'avoir la foi. Mais pas la foi naturelle. On l'a tous, la foi naturelle. On l'a dans ceci et cela. Mais la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et la suite de notre texte. Si tu confesses de ta bouche, toujours, hein. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, non pas dans ta tête, c'est pas cérébral. Ce n'est pas intellectuel. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que c'est quand même vraiment difficile hein, d'être sauvé? Simplement. L'objet de la foi, c'est Jésus-Christ. Non la croyance d'un Christ historique qui aurait vécu, qui aurait parlé, qui aurait donné, qui aurait aimé, qui aurait guéri, qui aurait soulagé, il y a 2000 ans. Mais nous croyons, nous, dans un Christ vivant, parce qu'il est ressuscité. Il est au milieu de nous ce matin. Et nous voulons l'honorer, nous voulons le bénir, nous voulons le glorifier. Il est vivant, il est au milieu de nous. Je ne le vois pas, vous non plus. Mais je sais qu'il est là. Tout ce que Dieu réclame de nous, c'est de faire l'effort de croire. Seigneur, je veux engager ma volonté. Je veux engager mon cœur à croire. Si je veux, je peux. Hein. Je veux engager mon cœur. Je veux croire du cœur, tout mon cœur. Et vous savez, la foi, quand elle est là, elle nous apporte la paix. Elle nous apporte une grande joie. Et tout cela en dehors de ce que nos mains peuvent toucher, nos yeux voir, nos oreilles entendre. C'est accepter ce qu'il dit comme vrai, même en l'absence de preuves tangibles et visibles. Eh oui, j'ai pas besoin de ça. Je m'appelle pas Thomas. Je m'appelle seulement Alain. Mais je peux être Thomas aussi. Hein. C'est pas exclu à certaines heures. Enfin, que Dieu nous fasse grâce les uns et les autres. Ouais, la foi, c'est... J'ai pas besoin de preuves, puisque Dieu me le dit. Ta parole me suffit, Seigneur. Croire Dieu sur parole. Pas croire en Dieu, pas croire en sa parole, mais croire Dieu sur parole. Une petite nuance, hein, vous avez remarqué. Lui faire totalement, entièrement confiance. En d'autres termes, je m'abandonne à lui complètement. Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux, de ma vie. Tu veux que je vive, je vis. Tu veux que tu fais comme tu veux. J'ai confiance en toi. Tu veux que j'ai ceci, que j'ai cela, eh bien tu me le donnes si tu le veux, Seigneur. Mais si je me bagarre en disant « Seigneur, tu dois me le donner », là, il y aura peut-être un peu de retard dans la livraison. Parce que c'est ça, on se bagarre. Le problème, c'est qu'au lieu de croire, on veut faire à la place de Dieu. « Seigneur, tu ne le donnes pas, Céline, je vais le chercher. » Ouais, mais c'est notre façon de vivre. Hein. C'est notre façon de faire. Hein. Nous abandonner à lui. Quand Dieu nous dit, croire Dieu sur parole, quand Dieu nous dit, je termine, que Christ est mort pour nos péchés, mes frères et sœurs, c'est vrai. Quand Dieu nous dit qu'il est ressuscité des morts contre toute logique, c'est vrai. Quand il sauve, quand la Bible me dit qu'il sauve, c'est vrai. Quand la Bible, la parole de Dieu me dit que par l'évangile qu'il guérit les malades, c'est vrai. J'en ai fait l'expérience. Quand la Bible me dit, eh bien, qu'il est capable de transformer la vie des hommes, même les plus déchus et désespérés, c'est vrai. Qu'il est capable de changer le mal en bien, c'est vrai. Que les pécheurs perdus, que les pécheurs sont perdus par incrédulité, c'est vrai. Que s'il y a dans, chez les pécheurs repentance, alors à ce moment-là, il y aura la possibilité de retourner à Dieu par Jésus, c'est vrai. Et il y aura nécessairement le pardon. Que Christ est l'unique et seul sauveur, c'est vrai, mes frères et sœurs. Seul et unique sauveur, Jésus est le seul sauveur. Le croire, c'est une chose. L'accepter en est une autre, comme la vérité. Et ça, ça s'appelle la foi spirituelle. La foi spirituelle. Parce que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Pas avec leurs yeux, pas avec leurs oreilles, pas avec ce qu'ils goûtent et ce qu'ils sentent ou ce qu'ils entendent. Non. En esprit et en vérité. Mais la foi ainsi fondée sur la parole de Dieu reste sans effet. Finalement, si elle n'est pas fondée, elle ne pourra rien produire. Mais par contre, si elle est fondée en Dieu, si elle s'appuie sur ses promesses, et que ce soit avec une démarche de cœur, alors je peux dire, comme le verset 11 le dit, d'un texte, quiconque, et c'est une offre universelle, croit en lui, ne sera point confus, ni déçu. Mes frères et sœurs, si vous êtes venus ce matin, c'est que vous n'êtes pas déçus. Vous n'êtes pas encore déçus. Vous ne le serez jamais, si vous voulez vraiment persévérer dans la voie que nous avons ouverte. Seigneur, tu ouvres des portes merveilleuses. Tu fais des choses pour nous merveilleuses que je ne comprends pas. Mais néanmoins, tu les fais. Et il y a quelque chose qui m'émerveille, qui m'enthousiasme profondément. C'est l'aventure de la foi. Dieu donne toujours la preuve que nous avons eu raison de croire en lui. Ouais. Raison de croire en lui, lui faire confiance. Alors il agit, et notre Église a besoin de rentrer dans une nouvelle dimension de foi. Je le dis, hein. Mais vous le savez? Ouais. On ne va pas vivre avec nos rudiments. religieux, on va vivre des choses de foi. Et l'Église a besoin d'être rafraîchie dans ce domaine. Et si nous le croyons, vous allez voir que ça va aller. Moi, je sais que je l'ai au fond du cœur, hein, mais je ne veux pas y aller tout seul. Hein. Communicateurs de foi les uns et les autres. On va communiquer la foi autour de nous. Dans la sagesse et dans la pensée du Saint-Esprit, pour faire n'importe quoi, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. On est là pour apporter le témoignage de l'amour de Jésus autour de nous. Alors je termine par une parole. Ça s'adresse à une femme, mais messieurs, vous pouvez quand même écouter. Elle s'appelle Marthe. Pourquoi tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses? Vous connaissez, hein, le... Mais c'est pas ça ce que je voudrais dire. Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit après, ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous demander, crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors moi, je vous dis comme Jésus à Marthe, mon frère, ma sœur, mon ami, crois-tu cela? Tout est là. On va prier. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, j'ai envie de te dire, comme les disciples hier, augmente-nous la foi. Et on va demander à Kader de bien vouloir élever sa voix pour que Dieu bénisse l'Église, que nous soyons visités, que nous soyons transformés et que nous puissions prendre une nouvelle dimension dans la foi.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.